Son métier, chef cuisinier. Sa passion, pèlerin à temps plein. Daniel Lafond vous invite dans son univers et celui de ses invités, chers mordus de Compostelle. Prenez place et buen camino!
Bonjour, bienvenue au Mordu de San Diego de Compostelle. Kilomètre 800 à deux pas de la réussite, présidente de Sans Limites, cette Québécoise au grand cœur fait le grand saut vers Compostelle, mon invité Audrey Pelletier. Buen camino!
J'aimerais trouver les mots justes pour vous partager à quel point c'est important pour moi la persévérance. Parce que vous savez, dans la vie, c'est important de se fixer des buts, c'est important de les atteindre, mais la seule façon de les atteindre, c'est de jamais lâcher. Je crois que c'est vraiment la plus belle chose qu'on peut enseigner à un enfant, de ne jamais lâcher. Parce que si on leur enseigne dès maintenant l'importance de la persévérance, ils pourront réaliser de grandes choses plus tard.
Bonjour Audrey, comment ça va?
Bonjour Daniel, ça va très bien et toi?
Ça va super bien, il me semble que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé.
Effectivement, ça fait très longtemps.
Audrey, toi, tu as un projet incroyable qui se met en branle en ce moment, en pleine pandémie. Kilomètre 800, deux pas de la réussite. J'aimerais ça que tu m'en parles, que tu me parles aussi de Sans Limites.
Oui, bien dans le fond, je peux commencer en parlant un peu de Sans Limites, puis m'en venir là, vers notre projet à moi et mon amoureux ensuite. Dans le fond, Sans Limites, c'est que cette année, j'ai terminé mon cours comme conseillère en voyage, donc je me suis joint à une agence de voyage. Et cette agence-là est spécialisée dans le tourisme accessible pour les personnes vivant avec des limitations, que ce soit une personne à mobilité réduite, avec un trouble envahissant du développement, une déficience intellectuelle ou peu importe. Et on s'est rendu compte que parfois, ces gens-là ont besoin d'un soutien lorsqu'ils veulent faire certaines activités dans leur vie. Par exemple, partir en voyage. Le service que moi, j'offre, c'est que en évaluant les besoins du client, du voyageur, on regarde qu'est-ce que moi, je peux apporter durant son voyage. C'est qu'est-ce que moi, je peux faire pour rendre son voyage le plus accessible possible. Par exemple, une cliente qui voudrait partir en voyage à Paris, qui serait à mobilité réduite, ben je pourrais partir avec elle. Et si elle a besoin d'aide pour ses soins de base ou son accompagnement ou de la gestion quelconque, ben moi, je vais avec elle et je l'accompagne durant tout son séjour pour rendre son expérience vraiment agréable. Wow. C'est un service qu'on a décidé de démarrer, oui, pendant la pandémie. On comprend qu'actuellement, c'est plus tranquille, mais ça nous permet vraiment de monter le projet comme il faut pour être prêt à partir.
C'est vraiment intéressant, par exemple. J'ai jamais entendu parler de ça ici, que ça se faisait, ça.
Ben il y en a. C'est ça, il y en a très, très peu par ici. En Europe, c'est quelque chose d'un peu plus développé parce que je dirais que sur le plan des personnes avec des besoins, l'Europe est très, très avancée sur nous parce qu'ils ont beaucoup de lois et de règlements qui favorisent justement l'intégration des personnes comparativement ici où que c'est encore au début de ça. Puis moi, j'ai eu un accident une fois, donc j'ai été 2 mois en fauteuil roulant sans pouvoir marcher et j'ai vraiment eu la chance de constater que malheureusement, beaucoup d'endroits sont encore inaccessibles, que ce soit des lieux publics ou des musées ou des activités quelconques, là, que je me suis rendu compte que c'est pas toujours évident là, dans la vie d'aujourd'hui pour les gens qui vivent avec des limitations de pouvoir justement bénéficier de services. C'est pour ça que moi, ça me touchait personnellement parce qu'à la base, je suis éducatrice spécialisée, j'ai de l'expérience comme préposée aux bénéficiaires. Accompagner les gens, c'est quelque chose que je fais dans la vie de tous les jours aussi. Je travaille dans des écoles. Pour moi, c'était vraiment une belle opportunité de démarrer quelque chose puis d'offrir un service complémentaire qui permettrait justement aux gens de vivre dans la normalité que nous, on a puis on a la chance de vivre. Là. C'était vraiment de leur offrir ça, tu sais, d'essayer d'enlever ce qui, eux, les limitent parce que dans le fond, peu importe la limitation physique que tu as, si on pallie à cette limitation, ben elle n'existe plus par la suite. Donc, c'était un peu dans cette vision-là qu'on a parti Sans Limites, justement, là, d'où le nom de l'entreprise.
Wow, c'est vraiment impressionnant. Et là, vous avez parti à un autre projet qui est un peu avec Sans Limites finalement, kilomètre 800 à deux pas de la réussite.
Oui, ben moi puis mon conjoint, on a toujours voulu faire Compostelle pour nous-mêmes à la base. Et comme on est deux personnes qui aiment beaucoup donner au suivant, Puis comme moi, je travaille dans les écoles, mon copain, lui, il est français, il est arrivé au Québec pour venir étudier, qui lui est au cégep actuellement. Donc, comme on gravite beaucoup autour des écoles, ben on a décidé de joindre notre projet personnel de faire Compostelle et d'amasser des fonds pour la Fondation Lupérivienne d'enseignement primaire, secondaire, public, qui, eux, remettent des bourses aux élèves, aux étudiants qui font preuve de persévérance scolaire. Nous, pour nous, ça nous parlait beaucoup parce que quand on va faire Compostelle, quand on va marcher nos 800 kilomètres pendant nos 35 jours, on va vivre des moments où on va sûrement avoir des doutes, ça va être difficile, va falloir qu'on surmonte ces moments-là. Donc, on voyait vraiment le parallèle avec la persévérance scolaire, avec les efforts que les enfants doivent mettre tous les jours là à l'école. Donc, c'était pour nous là, joindre l'utile à l'agréable, là, en quelque sorte.
Puis, il y a déjà plusieurs compagnies qui ont embarqué dans votre projet?
Oui, comment qu'on a décidé de fonctionner, c'est qu'on a parti une plateforme GoFundMe pour que les gens puissent donner, mais on a aussi décidé de faire du projet, d'aller chercher des commanditaires. Donc, on a eu notre commanditaire principal, si on veut, qui trouve à être entrepreneur en cavale. Eux, ils sont spécialisés pour les entrepreneurs qui veulent sortir de leur zone de confort. Donc, ils offrent des sorties un peu extrêmes, comme ils ont fait du saut en parachute. Ils veulent intégrer Compostelle un jour aussi dans leur projet. Donc, ça, c'est vraiment notre gros commanditaire. Puis ensuite, on a portionné le trajet en 8 portions de 100 km que les entreprises peuvent commanditer aussi. Donc, actuellement, on a une compagnie de construction qui nous a commandité 2 portions. Et on a la pharmacie de la municipalité où je reste actuellement, à Kakuna, près de Rivière-du-Loup. Eux s'impliquent toujours beaucoup dans les causes des gens de la municipalité. Donc, quand on les a approchés, ils étaient super contents. Puis leurs enfants, à eux, vont à l'école où je travaille. Donc, ça prenait tout leur sens pour eux. Ils ont embarqué également. Puis c'est ça, puis ben il y a toi aussi là qui a accepté de participer aussi. Donc c'est vraiment des gens qui veulent redonner au suivant, puis qui croient en la relève de demain, tu sais, puis à nos enfants, puis qui voient que pendant la pandémie c'est beaucoup plus difficile pour eux. Donc ils veulent s'impliquer, puis ça fait vraiment toute la différence.
Puis toi, Audrey, comment t'as connu le chemin de Compostelle en tant que tel?
Ben moi, je suis quelqu'un qui a toujours aimé beaucoup l'histoire, quelqu'un qui regarde beaucoup, justement, c'est ça, des vidéos d'histoire et tout ça. Et j'avais entendu parler de Compostelle dans des vidéos que j'avais regardées. Et comme j'adore voyager, j'adore découvrir le monde, écoute, moi, je m'extasie devant à peu près n'importe quoi. La première fois, je suis allée chez la grand-mère de mon copain en France. Et on passe devant un champ et il y a une vache avec le poil long et des cornes, et que moi, j'avais jamais vu ici, mais finalement, j'apprendrai plus tard qu'on a ça ici aussi, mais moi, j'avais jamais vu ça, les vaches des Highlands, et j'ai trouvé ça tellement beau, donc je suis toujours à m'extasier devant tout, donc ça m'a comme allumé une étincelle de vouloir faire ce chemin-là un jour pour le défi physique, puis pour le côté aussi... j'ai vécu des choses quand j'étais plus jeune et tout ça, puis c'est drôle parce que les gens autour de moi disent « Audrey, t'es tellement devenue une jeune femme accomplie, on n'aurait jamais pensé ça quand t'étais plus jeune parce que j'étais super renfermée, tu sais, puis j'ai eu des moments plus difficiles. » Puis de relever ça, ben je me disais, tu sais, je veux me permettre de faire ça pour justement, tu sais, faire la paix avec qu'est-ce que j'ai vécu avant, ce que je suis maintenant, tu sais, puis c'est un peu tout ça là. Donc c'est comme ça que j'ai connu Compostelle, là, par des vidéos et des conférences, puis je me suis d'ailleurs inscrite à la conférence donnée par le centre La Tienda avec Marcel Leboeuf, oui, qui va avoir lieu au mois de mars. Quand j'ai vu passer ça l'autre semaine, je me suis tout de suite inscrit. Je vais pouvoir profiter également de ça.
Ce qui est beau, c'est qu'on voit déjà la passion en toi. Puis t'as même pas encore marché sur Compostelle, puis tu regardes ça de l'extérieur. Imagine-toi quand tu vas être rendu là-bas avec ton conjoint Christophe. Christophe, que, comme tu dis, qui vient de la France, fait que qui va retourner un peu sur ses terres. Toi, tu restes quand même assez loin pour nous. Je parle au Québec, là, peut-être les Européens ne savent pas c'est où exactement Rivière-du-Loup, mais t'es quand même assez éloigné de Montréal. Est-ce qu'il y a des gens dans ton coin qui ont déjà fait Compostelle?
Moi, j'ai une de mes tantes qui a marché Compostelle, je crois qu'il y a une dizaine d'années déjà. Okay. Et puis quand j'ai choisi qu'on irait marcher Compostelle, ben tu sais, c'est la première que j'ai contactée, puis en lui disant, oh, j'aimerais ça, tu sais, Isabelle, qu'on puisse se voir, puis que tu me parles de ton parcours à toi. Puis mais sinon là, dans mon entourage immédiat, il y avait personne qui avait été là, puis même que tu sais, les gens trouvent ça un peu, ah ouais, tu vas aller marcher 800 km dans le milieu de nulle part, puis là tu trouves pas ça dangereux, t'as pas peur, t'as pas, puis là j'étais là, ben non, ben moi j'ai peur de rien là, tu sais, je veux dire Je suis partie toute seule en France voir mon conjoint à Noël une année. Ça faisait juste 6 mois qu'on se connaissait pour vrai, qu'on s'était déjà vu une fois. Puis là, mais moi, j'ai une ouverture envers les gens, puis j'ai tendance à faire confiance aux gens jusqu'à temps qu'ils me montrent que finalement, il faut pas. Là, mais fait, c'est vraiment quelque chose de... Mon chum, il trouve ça toujours très drôle parce que je vais faire la file d'attente à l'hôpital, à l'épicerie. Je vais être dans une... Peu importe la file d'attente où je vais être. Puis finalement, quand je vais partir de la file d'attente, je vais avoir 2-3 nouvelles connaissances. Donc, c'est vraiment ça. Donc, mais non, fait que c'est ça. Il y avait ma tante Isabelle. Puis sinon, je me suis beaucoup, justement, informée à écouter des reportages comme avec Dave Morissette, Arrêter le temps. Je l'écoute régulièrement. Là, j'y ai accès sur Internet et j'adore ce vidéo-là parce que, tu sais, il le fait en famille. Ouais. Fait que je me dis, waouh, tu sais, la chance qu'on a de pouvoir le faire. Puis, tu sais, là, j'utilise le mot chance, mais en général, j'utilise le mot, je dis que je suis choyée parce que, tu sais, notre chance, c'est nous qui l'a fait en quelque sorte, là. Tu sais, ma mère, l'autre jour, a dit, t'es chanceuse, tu vas pouvoir partir. Je dis, oui, mais maman, je fais des choix qui me permettent de partir.
Ouais, exactement.
Ça m'a pas tombé dessus du jour au lendemain, là.
Puis toi, t'avais-tu déjà fait des randonnées? Des randonnées de plusieurs kilomètres ou pas vraiment?
Tu sais, c'est sûr que j'ai jamais marché 25 kilomètres par jour. J'ai jamais fait ça, mais je marche beaucoup, je marche tous les jours, je vais travailler à la marche, tout ça. C'est quelque chose que j'adore marcher pour vrai. Là, j'ai toujours aimé ça. J'adore aller faire de la randonnée en montagne aussi, tu sais, partir une journée sans faire justement 20 kilomètres, mais tu sais, 10-15 kilomètres. C'est quelque chose que j'aime, j'adore faire de la raquette. Fait que je fais du patin aussi. Fait que je suis quand même quelqu'un de relativement active. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, je le suis parce que j'en ai besoin pour ma santé. Là. Puis après mon opération au genou, j'étais 2 mois sans marcher, comme je disais tout à l'heure, je me suis rendu compte de à quel point j'étais choyée de pouvoir marcher, justement, parce qu'il y a des gens qui pourront jamais marcher. Donc, c'est vraiment, ça prend tout son sens, puis je veux vraiment là, montrer que tout est possible. Là.
Et toi, ton projet, ben, c'est en 2022 en réalité.
Oui.
Mais as-tu l'intention d'aller peut-être aller marcher sur le chemin du Québec pour te pratiquer un peu avant de partir là-bas en 2022?
Oui, ben comme je travaille dans les écoles, moi j'ai la chance l'été d'avoir 2 mois de congé. Moi, puis mon chum cette année va pouvoir avoir 2 semaines de vacances, lui, parce qu'il travaille là, à temps partiel, mais l'été est à temps plein, donc... il va avoir 2 semaines de vacances, donc on voulait partir. C'est ça, j'ai découvert les chemins du Québec, fait que je sais pas finalement si on va changer d'idée, mais à la base, qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait partir de Kakuna, dans le fond de chez nous, et se rendre à Québec à pied. Donc, on voulait le faire en faisant la 132, le bord du fleuve, parce que moi, j'adore l'eau, c'est quelque chose qui m'apaise beaucoup. Donc, j'avais regardé pour nous faire un trajet par nous autres-mêmes. Et là, ben, en faisant mes recherches, j'ai trouvé le chemin du Québec. Fait que peut-être qu'on va modifier notre trajet pour peut-être emprunter un des chemins du Québec, justement, là, son
Pascal nom échappe, Auger.
Là. Oui, c'est ça, avec Pascal. Ouais. Merci. Oui,
aucun problème, mais Pascal Auger, en plus, c'est une très bonne référence. Puis, ça va te faire une super pratique parce que tout dépendant d'où ce que tu vas aller, comme tu disais, là, te pratiquer là-bas, mais dans la région de Charlevoix, qui n'est pas loin de Québec, il y a quand même des très bonnes montagnes. Qui peut, sans dire ressembler un peu aux Pyrénées, mais quand même assez abrupt. Et ça peut faire quand même une bonne pratique. Mais ne t'inquiète pas, parce que Compostelle, en tant que tel, c'est peut-être la première portion, les 10 premiers jours, là, qui sont un petit peu plus difficiles. Mais à partir du moment que tu as commencé à marcher sur le chemin, tu tombes complètement dans une autre ambiance. Et... tu vas avoir tellement de plaisir. Mais justement, tantôt, tu disais que quand tu attendais dans les files d'attente, tu parlais pas mal avec les gens, puis tu étais très sociable. Mais toi, en étant professeur, tu es une personne qui est ouverte aux autres. Sur le chemin, comment penses-tu être face à l'autre, justement, face aux autres pèlerins?
Bien, c'est une très bonne question. Puis j'ai lu beaucoup de récits de gens qui sont allés, tu sais, puis qui disaient que le chemin leur avait apporté beaucoup. Puis moi, je vais laisser venir à moi ce qui est à... Tu sais, je vais vraiment être ouverte à tout ce qui peut arriver à... Tu sais, tu parles dans tes podcasts, souvent, tu parles de petites surprises dans le fond du chemin, si on veut, là, puis des choses comme ça. Mais je pars vraiment avec un esprit ouvert, puis de rencontre, puis de voir les gens, tu sais, parce que ce que je trouve beau dans ce que j'ai lu, dans ce que je vois... C'est que, tu sais, quand t'es à Compostelle, Peu importe qui tu es, le bagage que tu as, que tu gagnes des millions par année ou que tu sois sur le seuil de la pauvreté, tout le monde est au même pied d'égalité parce que tout le monde a un objectif, c'est se rendre, c'est de marcher. Donc, je pars vraiment avec cette ouverture-là de envers l'autre, puis d'être ouverte à ce que le chemin va m'apporter. Mm-hmm. Puis, tu sais, oui, je vais être choyée de marcher avec mon conjoint, mais c'est comme je disais à Christophe, j'ai dit, tu sais, ça se peut que toi, t'aies besoin à un moment de marcher tout seul, puis ou que moi, j'en ai besoin aussi. Donc, tu sais, c'est vraiment de laisser l'ouverture à ce qui va se passer puis à ce qui va s'offrir à nous, là. Donc, je pars vraiment avec cette vision-là. Okay. Là.
Prévois-tu, comme tu dis, tu vas peut-être marcher quelquefois avec ton conjoint, quelquefois sans ton conjoint. Mais est-ce que vous prévoyez toujours vous rejoindre à la fin des étapes?
Ben, je crois qu'on va vraiment voir une fois sur place parce que moi puis Christophe, on est très... c'est drôle parce qu'on est très différents, mais en même temps, on est très... On se ressemble sur plein de choses, mais on est très différents sur d'autres. Donc, Christophe est plus renfermé, puis pas renfermé, mais plus introverti, si on peut dire comme ça. Puis moi, je suis extravertie pour deux, donc c'est comme un équilibre chez nous. Mais je pense qu'on va se le dire le matin. T'sais, okay, aujourd'hui, est-ce qu'on... T'sais, on va se rejoindre à quelque part, puis après, on verra. T'sais, puis moi, je suis très ouverte, puis Christophe aussi est assez... on est capable d'être très indépendant, donc si un a envie de marcher plus longtemps, ben, tu sais, moi, je suis très ouverte à ce que s'il veut continuer, il puisse le faire. Si moi, je m'en sens incapable, ben, c'est correct aussi. Puis, je pars aussi avec une vision de respecter mes limites. Okay. Oui, je veux montrer que tout est possible, mais tu sais, en ayant vécu une grosse opération, tout ça, je suis consciente que ça se peut que mon corps m'envoie des signaux puis qu'à un moment, je dois baisser le rythme. Fait que je veux pas priver Christophe d'avancer et vice-versa. Donc, je crois qu'on va vraiment, tu sais, puis on a vraiment la même vision là, de partage avec l'autre et de y aller selon chacun ses limites. Okay, là. Okay. Donc, on va partir avec ça. Puis
tu sais, quand on va à Compostelle, là, c'est une aventure. Pas besoin de réserver nulle part. Tu pars, puis c'est où est-ce que tes jambes te mènent, finalement. Fait qu'il faut pas trop te mettre de pression. Oui. C'est vraiment, vraiment, vraiment l'ambiance du chemin qui va faire en sorte que tu vas savoir où t'arrêter. Tu sais, souvent, là, il y a des étapes qui vont être suggérées un petit peu, là. Il y a comme 36 étapes. Mais des fois, tu peux faire plus qu'une étape ou des fois, tu peux faire même moins qu'une étape. Mais c'est pas vraiment grave parce qu'en bout de ligne, l'important, c'est de se rendre jusqu'au bout. Alors,
exactement.
C'est ça, faut pas se mettre de pression, mais quand on arrive là-bas, moi, je l'ai vécu personnellement, souvent, on regarde le nombre de kilomètres au départ, on se dit, il y a 800 kilomètres, et on se fixe des objectifs de kilomètres, et au bout d'une ou deux jours, ben, on se dit, il en reste quand même encore 780, ça va quand même être assez long, mais comme je dis, souvent, ce qui va arriver, c'est que le chemin va rentrer en toi, et là, on va juste regarder le nombre de kilomètres qu'on a à faire dans notre journée, et ça va enlever une vraie pression, puis tu vas apprécier ton chemin. Puis, ce qui est le fun aussi dans ce que tu vas faire, c'est que, comme tu dis, c'est que tu t'en vas le faire en couple, et c'est plutôt rare sur le chemin les gens qui le font en couple. Tu sais, il y en a, mais je vous dirais, là, sur 100 pèlerins, il y a peut-être 5%, là, 6, peut-être je suis généreux aussi. C'est quand même très rare. La plupart des gens partent à Compostelle seuls pour réfléchir, faire un chemin, puis... Et là, tu vas vivre vraiment une belle expérience. Comme disait Olivier dans un autre de nos podcasts, lui, il conseillait la lune de miel
avant.
Exactement. Toi, tu vas sûrement la vivre après. Exactement.
Oui.
Mais tu vas vivre un chemin incroyable avec ton conjoint. Là. Je t'envie. Là.
Oui. Puis tu sais, on est choyé parce que, oui, on s'est fixé l'objectif de le faire en 35 jours. Mais ce qui arrive, c'est que comme moi, j'ai 2 mois de vacances l'été et que l'année qu'on part, Christophe, lui, va avoir terminé le cégep aussi. Donc, enfin, on va avoir tout notre été. Fait que si jamais il arrive quelque chose, tout ça, et si jamais on voudrait continuer jusqu'à Finistère, parce que dans le fond, nous, à la base, on veut se rendre à San Diego, mais si jamais on aime ça puis on veut vraiment se rendre jusqu'au bout du monde, ben on va pouvoir le faire parce que nous, comment qu'on voit ça, c'est qu'on comptait garder au moins 2 semaines de plus en France dans la famille à Christophe. Donc, tu sais, ça nous laisse une marge de jeu dans le sens où on n'a pas besoin de revenir rapidement au Québec.
OK. Ben oui, exactement. Ça va juste faire peut-être 3 jours de moins dans sa famille. si jamais tu vas jusqu'à
Fistera. C'est ça, exactement.
Moi, je te conseille personnellement d'aller jusqu'à Fistera. Si jamais ça va bien, là, ta marche à Compostelle, tu ne te blesses pas, va vraiment jusqu'à Fistera, même jusqu'à Mouchia, qui est une journée à côté. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va jusqu'à Mouchia et après, on finit à Fistera. En tout et partout, c'est 4 jours de plus. Mais ça vaut tellement le déplacement, là, voir la borne avec kilomètre zéro. Ça, tu vas voir plusieurs bornes là-bas, mais quand tu vois kilomètre zéro, c'est... C'est quand même...
Je trouve que ça ferait un beau lien avec kilomètre 600, si on serait rendu à zéro.
Comment tu vois ton chemin? Ça serait quoi ton chemin idéal pour toi? Ça serait quoi que, à l'intérieur de toi, après ton chemin, qu'est-ce que tu aimerais avoir vécu là-bas? Ça serait quoi ton chemin drive, finalement?
Ben, c'est sûr que dans mon chemin drive, je me blesse pas, puis mes pieds survivent. Je veux vraiment me donner le droit de me retrouver dans le sens où, tu sais, dans notre vie de tous les jours, ça va toujours super vite, hein. Tu te lèves le matin, là, tu te prépares, tu t'en vas travailler, tu reviens à la maison le soir. Tu sais, on est vraiment dans une routine, dans un tourbillon. Puis, tu sais, depuis mon accident, je me suis beaucoup remis en question sur plein de choses. J'ai déjà pris des décisions pour essayer de ralentir le rythme un peu. Et j'ai aussi vu, tu sais, j'ai revu mes priorités également. T'sais, le COVID aussi en est. Donc, je veux vraiment continuer dans ce cheminement-là que je fais depuis les dernières années, de me libérer de ce qui n'est pas utile, t'sais, le surplus, la surconsommation, toutes ces choses-là, puis vraiment revenir à l'essentiel. Puis, je veux vraiment essayer de vraiment laisser aller le passé, là. Okay. Parce que même si je travaille beaucoup sur moi en général, même si je lis beaucoup sur le développement personnel, tu sais, puis je fais beaucoup je regarde beaucoup de webinaires puis tout ça. Mais je me rends compte qu'il y a certaines choses qui sont encore ancrées en moi puis desquelles je voudrais me délester, justement. Donc, pour moi, ça serait vraiment ça. Et j'aimerais vraiment emmener aussi, chez les enfants, à voir que c'est ça, tout est possible, peu importe le milieu d'où tu viens, peu importe ce que tu as vécu, que tu as le choix. C'est toi qui fais les choix dans ta vie, donc je veux leur emmener ça aussi. Donc c'est sûr que, mais qu'on revienne ici, j'aimerais ça faire une tournée de conférences dans les écoles, pour montrer aux enfants qu'est-ce qu'on a vécu, que ça a peut-être été dur par moment, mais qu'on a réussi. C'est tout ça que je veux emmener avec ce projet-là.
C'est ça. En même temps, moi, je voulais te parler. C'est sûr que ton projet va sûrement inspirer les gens de ta région, mais de tout le Québec. Est-ce que tu prévois monter une présentation, soit vidéo ou photo?
Oui, bien, c'est sûr que j'aimerais vraiment faire quelque chose de professionnel là, au retour. Tu sais, quelque chose qu'on pourrait justement, que je pourrais me déplacer peut-être dans la province, tu sais, aller présenter, faire prendre les photos, tout ça, monter peut-être un vidéo souvenir ou, tu sais, avec... c'est sûr que là-bas, on va prendre des photos, je vais faire des vidéos. C'est sûr que je suis pas une caméraman, là, tu sais, je veux dire, j'ai pas de formation là-dedans, je me débrouille avec mon téléphone cellulaire, mais c'est quelque chose que j'aimerais là pouvoir... saisir l'instant là-bas, puis essayer de ramener un petit peu de là-bas ici après, tu sais.
Wow! Moi, ce que je te conseille aussi, c'est qu'on puisse te suivre là-bas directement, ici du Québec.
Oui.
C'est-à-dire, si tu fais des petits vidéos de 2-3 minutes en soirée, là, tu fais le montage, tu t'arranges pour trouver une place où il y a du Wi-Fi, puis tu fais juste montrer tes photos, tout ça, les gens d'ici vont être devant leurs écrans, ils vont te regarder, puis c'est super plaisant pour les gens là, de suivre ton évolution.
Oui, c'est ce que j'aimerais, là.
Toi, prévois-tu dormir dans les albergués ou t'aimerais plus dormir dans les hôtels? Parce que c'est sûr que les albergués, c'est comme des centres jeunesse ici. Alors, si on n'a pas d'expérience, des fois, ça peut faire peur un peu pour les premières fois de dormir avec des gens qu'on connaît pas. Mais toi, c'est quoi ton objectif?
On veut vraiment vivre le chemin comme un pèlerin. Donc, je veux dire, on veut vraiment profiter des albergués, tu sais, être avec les gens le soir, avoir des discussions, tu sais, vraiment vivre ça. Mais c'est sûr que probablement qu'à certains moments, on va probablement se prendre plus une petite auberge, plus pour avoir au moins une chambre, tu sais, une fois de temps en temps, pour avoir un peu d'intimité, tout ça. Christophe dormirait à côté de la Troisième Guerre mondiale, puis il n'y aurait pas de misère. Moi, j'ai un sommeil un peu plus léger. Donc, tu sais, pour parfois donner une pose des gens qui ronflent un peu plus, ben c'est sûr que je ferais ça. Mais oui, on veut vraiment le vivre là, le plus basique possible, là, vraiment
la façon le plus pèlerin possible.
Ouais, c'est ça. De toute façon, je vais être très heureuse là-bas. Écoute, du fromage, des saucissons, puis du vin, écoute, c'est parfait.
Du vin, il y en a dans tous les repas du pèlerin en passant. Là, quand tu vas...
Oui, c'est ce que je voyais.
Quand tu vas être dans les albergués, souvent, tu vas avoir le choix de prendre le repas du pèlerin, mais il y a toujours du vin. C'est une tradition.
J'ai dit, les gens qui ont les pieds enflés, là, c'est pas parce qu'ils marchent beaucoup, j'ai dit, c'est parce qu'ils boivent trop de vin.
Mais en Espagne, tu vas en voir beaucoup des gens qui aiment le bon vin. Puis en Espagne, oui. En plus, ce qui est le fun, je sais pas si tu es au courant, mais tu vas passer à travers des vignes pendant 5-6 jours. Là, tu vas même passer à côté d'une place où il y a une fontaine de vin. Je vais pas te dire c'est où parce que je veux te garder la surprise. Mais c'est dans tes premiers jours et tu vas voir, tu vas vraiment être impressionné.
Ah, oh, wow, j'ai vraiment hâte. Puis, tu sais, des fois, quand j'ai recommencé à travailler en septembre, c'est un début d'année scolaire un peu spécial avec le COVID, tout ça. Puis, je suis quelqu'un qui est très anxieuse intérieurement. Les gens me croient pas quand je leur dis ça parce qu'ils disent, voyons, André, ça paraît pas. Mais moi, je le vis très intérieurement. Puis, depuis que je sais que je vais partir à Compostelle, quand je sens à l'intérieur de moi que j'ai de l'anxiété qui monte, je ferme mes yeux, là, 2-3 minutes, puis j'essaie de m'imaginer sur le chemin de Compostelle, et c'est fou l'effet que ça a sur moi, puis je l'ai pas marché encore, là, mais ça me calme, ça m'apaise déjà.
Et Audrey, je veux pas faire trop peur, mais quand tu vas revenir de ton chemin, fais-moi confiance, tu vas l'avoir dans la tête tout le temps. Ça part pas, tu vas être transformé, honnêtement. Je sais pas comment te le dire autrement que ça, c'est une transformation assurée. Quand on va là-bas, on apprend à découvrir tellement de choses. Juste les valeurs humaines qu'il y a là-bas sur le chemin. Ce qu'on oublie souvent, et qu'on découvre rendu là-bas, c'est les valeurs des gens. Tu sais, toi, tu es une femme de grand cœur qui fait des choses exceptionnelles dans ton coin. Mais ce qui va être exceptionnel aussi pour toi, c'est de rencontrer des gens qui vont être comme toi là-bas. Parce que la plupart des pèlerins, sinon la totalité des pèlerins, c'est tous des gens qui ont quelque chose à t'offrir, quelque chose à... Tu vas parler avec des gens, tu vas sentir que tes conversations sont très importantes. Tu vas faire des rencontres extraordinaires. Tu sais, souvent, si tu écoutes les podcasts, je parle souvent des rencontres du retour, des moments marquants, des petits miracles là-bas. Mais ça, c'est toutes des choses que tu vas vivre, que tu n'as jamais vécu ici. Là. Des miracles, tu vas en vivre là, des hasards, comme Marcel Leboeuf, tu vas écouter prochainement sa conférence, il va le dire dans sa conférence, les hasards du chemin. C'est tellement impressionnant. Et quand tu vas raconter ça à d'autres gens, à ton retour, les gens vont sembler être sceptiques parce qu'ils vont dire, mais voyons donc, tu sais, ça se passe pas comme ça ici. Mais là-bas, on est sur un terrain où ce que ça fait 2000 ans que les gens marchent dans ce coin-là. Il y a de l'histoire. Tu sais, c'est une terre. C'est une terre sainte. Je sais pas ça serait quoi le vrai mot, là, mais à partir du moment que tu vas marcher là-bas, à ton premier kilomètre, en partant, toi, tu vas faire le Camino Francés, j'en déduis.
Oui, oui.
Là, tu vas partir de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et à partir du moment que tu arrives à Orisson, là, les premiers kilomètres, les 8 premiers kilomètres, c'est sûr que tu montes dans les Pyrénées, ça va être un petit peu plus difficile, surtout si tu n'as pas marché les 2-3 premiers jours avant. Moi, ce que je te conseille d'ailleurs, là, juste avant de partir, si tu es capable de marcher 2-3 jours, une quinzaine de kilomètres avant de partir, juste pour avoir tes jambes déjà rodées. Là. Et là, tu arrives là, les 8 premiers kilomètres. Et quand tu vas arriver à Orisson, tu vas comprendre quelque chose à l'albergué Orisson. Tu vas être sur les Pyrénées. Et là, tu vas être complètement dans un univers qui est différent de ton univers que tu es habitué au Québec. Et là, tu vas vivre de grands moments.
J'en doute pas. Ben, pis c'est drôle parce que tu dis ça, puis quand j'écoute Arrêter le temps avec Dave Morissette, il y a toujours la partie où, avec son père, il arrive où la pancarte qui annonce là, que tu sais, sont arrivés en Espagne, tu sais, puis qu'il y a tant de... Mais écoute, moi, je suis assise sur mon divan et j'ai des larmes qui coulent. Fait que là, je me dis, mais que je sois là, puis que moi, je vois la pancarte, je vais être inconsolable, ça se peut pas. Puis le matin, ça, est-ce que comme le soleil se couche plus tard, est-ce qu'il se lève plus tard aussi?
Un petit peu plus tard qu'ici, parce qu'ici, durant l'été, là, des fois, à 5h, 5h30, là, il fait clair. Ouais. Là-bas, c'est plus vers 6h, ben plus vers 6h30, je dirais, là, que tu commences à voir le lever du soleil. Puis à partir de 7h, là, il fait quand même un petit peu plus clair. Fait que je dirais qu'il y a à peu près 2 heures de différence avec le Québec, là, avec le Canada.
Dans le fond, on peut partir marcher tôt le matin, justement, avant que le soleil soit
trop haut. Non, exactement. Surtout dans certaines parties là, de ton chemin, là, comme exemple la Minnesota, que tu vas apprendre à connaître un petit peu plus loin, là, vers ton, si je me rappelle bien, vers la 17e étape à peu près. La Minnesota, c'est sûr que ça, je te conseille de vraiment partir le plus tôt possible parce qu'il fait très chaud rendu dans ce coin-là. Là. Des chaleurs de 35-40 degrés, là, c'est vraiment pas rare. Moi, il m'est arrivé des aventures dans ce coin-là. Il faut pas que tu manques d'eau parce que...
Oui, non, c'est ça.
Ça pourrait être très, très, très chaud. Mais c'est sûr que quand tu t'en vas marcher à Compostelle, tu as juste ça à faire marcher. Tu sais, tu marches, tu penses un petit peu plus loin pour te trouver un albergué ou un hostal. Et où tu vas manger. Mais à la base, c'est qu'aussitôt que tu te couches, tu veux te réveiller pour retourner marcher. Alors, le plus tôt que tu pars, le mieux que c'est, le meilleur, le plus heureux que tu peux être. Souvent, on marche toute la journée, on prend notre temps. C'est pas une course, hein. Compostelle, ça, c'est une autre chose aussi que j'ai... Ben, peut-être que j'en ai pas parlé encore. C'est sûr que les pèlerins qui l'ont fait, ils vont savoir ce que je dis, mais tu sais, les gens marchent là-bas en général à 4 km à l'heure. Là. Tu vas pas marcher à 6-7 km à l'heure. Ça sert absolument à rien parce que tu as quand même plusieurs kilomètres à faire et tu veux pas te blesser. Alors, tu prends ton temps. Tu marches à un bon rythme, par exemple, mais tu prends ton temps, mais 4 km à l'heure, c'est amplement suffisant. Puis ça te permet de marcher 6-7 heures de temps là, pour faire l'étape que tu veux faire, finalement.
Mais ça va être parfait pour moi. Moi, j'aime marcher, mais mon corps n'est pas fait pour courir, donc ça va être parfait. J'ai essayé la course, puis ça me pas fait. J'ai eu des douleurs horribles.
Et toi, Audrey, une autre chose que moi qui m'a vraiment, vraiment séduit là-bas, c'est les églises. Toi, t'es-tu une personne d'église en tant que telle?
Écoute, je pense que je suis pas née à la bonne époque parce que j'adore tout ce qui est religieux. Je suis pas, je vais pas à l'église toutes les semaines, là, c'est pas ce que je veux dire, mais je trouve ça tellement majestueux, les églises. Je regarde ici, je trouve ça tellement triste qu'on les laisse partir comme on fait. T'sais, au-delà de la religion, c'est quand même notre culture, c'est qui on est, c'est ce qui a façonné notre pays. Donc, je trouve ça triste qu'au Québec, on les laisse partir comme ça. C'est ce que j'adore de l'Europe. Pour eux, tout ce qui est église, cathédrale, les choses religieuses, ça a un sens historique, puis c'est super important pour eux. Puis, je me souviens, j'ai eu la chance d'aller... visiter la cathédrale Notre-Dame de Paris à Paris, justement, avant qu'elle passe au feu. Et, tu sais, j'ai été à l'intérieur et quand tu rentres dans une cathédrale comme ça, tu peux pas rester insensible, même si t'es pas religieux, là, je veux dire. C'est tellement majestueux, c'est tellement beau, le son qu'il y a à l'intérieur, les vitraux, c'est vraiment magnifique. Puis, je suis montée jusque toutes les 400 quelques marches qui vont jusqu'aux cloches en haut. Et c'est des mastodontes, là, c'est énorme, c'est vraiment, t'es tout petit à côté de ça, tu sais, c'est vraiment magnifique. Moi, j'adore tout ce qui est église, cathédrale. Et quand je suis allée dans le coin de la grand-mère à Christophe, dans les Landes, en France, il y en avait, puis j'étais tout le temps en train de les photographier, je trouve ça beau, je trouve ça majestueux, tu sais, c'est rempli d'histoire. Puis des fois, tu rentres dans certaines églises, certaines cathédrales, puis tu sens qu'il y a quelque chose. Tu sais, comme quand tu rentres dans une vieille maison, là, tu sens l'histoire, tu sais. C'est beau une maison neuve, mais moi, je suis 100 fois une maison ancestrale, si tu me donnes le choix, là. Il y a un vécu, il y a une âme. Donc, moi, ça me parle énormément, j'adore ça. Donc, je risque d'être de celle qui va arrêter à toutes les cathédrales qu'elle va croiser en cours de route.
Je te dirais que tu as sorti l'exact beau mot, là, c'est énorme. Parce que quand tu vas marcher, tu vas en voir des églises, là, tu vas en voir tellement, là, que c'est... les églises en Espagne sont pratiquement toutes ouvertes. Tu peux y aller pratiquement à n'importe quelle heure. Et moi, j'adorais juste aller me recueillir un petit peu, penser à mon chemin. Et je trouve que les églises apportent une force. On dirait que c'est comme de l'oxygène. Tu rentres dans l'église, puis ouais. C'est tellement calme. C'est tellement beau là-bas, les églises. Il y a de l'histoire. Il y a des cathédrales à Léon, des cathédrales à Burgos, notamment, là, qui sont exceptionnelles. À Astorga, il y a 3-4 églises, une à côté de l'autre. C'est tellement, tellement, tellement beau. Tu vas même voir un énorme château là, sur ton chemin. Ça non plus, je ne veux pas te dire exactement c'est où pour que tu aies la surprise quand tu vas le voir, mais c'est tellement... Tu sais, les châteaux qu'on voit là, dans les films, tout en pierre, c'est des choses qu'on ne voit pas ici au Québec. Et tu vas être émerveillé quand tu vas arriver là-bas. Tu vas dire, waouh, il y a même un pont à un moment donné que tu vas traverser. Et puis l'histoire, c'est tellement beau, là.
Ah oui. Ben c'est drôle parce que quand je lis les livres, quand je vois les reportages, des choses comme ça, moi, la première chose que je veux faire avant qu'on parte marcher, parce que je pense qu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, il y a ça le matin, de la messe du pèlerin.
Oui, ben oui.
Que c'est comme... Puis, tu sais, il y a des gens qui le font pas, là. Puis moi, je disais à Christa, je disais, on peut pas faire ça. C'est comme, que tu sois croyant ou pas, moi, tu sais, moi, mon père m'a toujours dit dans la vie, faut que tu crois en quelque chose. Peu importe en quoi tu crois, faut que tu crois en quelque chose. Parce que c'est ce qui va t'amener à aller quelque part, tu sais, à réussir quelque chose. Puis... Moi, je pense qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, puis qu'il faut y croire, tu sais. Puis c'est pour ça que pour moi, ça va être un incontournable, c'est certain.
Je trouve qu'il est important, c'est d'emmener un petit livre qui explique chacune des étapes, parce que c'est sûr que tu pourrais manquer justement des coins historiques. Juste en suivant les flèches jaunes, souvent, ce qui arrive, c'est que le soir, tu finis vers 3-4 heures de marché, 2-3 heures. Mais entre la fin de ta marche et le début de ton souper, de ton dîner, là, qu'ils disent en Europe, il y a des choses que tu peux visiter. Et avec le livre, et c'est sûr que nous, on vient pas de la France ou en Espagne, on vient pas de l'Espagne, on connaît pas tous les endroits là, à visiter, places historiques. Mais dans les livres, habituellement, ils l'expliquent. Et c'est tellement, tellement important. Tu vas découvrir des trésors, là, des vrais trésors là-bas, des endroits là, qui ont énormément d'histoire.
J'ai la chance que mes beaux-parents soient en France. Donc, ici, je le cherchais puis je ne le trouvais pas, ce livre-là. Donc, eux me l'ont expédié. Là. J'ai commandé le Miam Miam Dodo. Partout, ça disait que c'était la Bible de Compostelle, quasiment. Là. Puis effectivement, la nouvelle édition 2020 que j'ai est vraiment bien faite. Il y a vraiment beaucoup d'informations à l'intérieur, puis c'est vraiment super bien expliqué. Puis pour les alberguer, justement, quel alberguer, c'est à peu près combien, pour nous aider dans le budget aussi. Là. C'est sûr que là, avec le COVID, je ne sais pas de quoi ça va ressembler, mais que nous, on y allait en 2022, mais... Au moins, ça donne un petit aperçu.
C'est sûr que les prix vont peut-être changer un petit peu parce que eux, ça va faire pratiquement là, un an qu'ils vont être fermés. Il y en a qui vont rester ouverts pareil, mais il y en a plusieurs qui ont fermé en attendant la fin du COVID. Mais les prix là-bas en Espagne, c'est aucunement comparable à ce qu'on connaît ici.
Non, exactement.
Je vous dirais que c'est entre 5 et 10 euros pour les alberguer. Et les hostels, là, entre 20 et 30 euros. Et les hôtels, moi, j'ai jamais couché dans un hôtel là-bas, mais le plus haut que je suis allé, moi, c'est dans les hostels. Ce que je fais, et ce que je vous conseille aussi de faire, c'est dans les grandes villes, là, je vous dirais, il y en a peut-être 4-5 sur le chemin, de prendre le temps de visiter. Parce que, exemple, à Pamplune, ça, c'est la ville où il y a plusieurs événements de courses de taureaux en juillet.
Oui.
Mais juste à cet endroit-là, nous, avec mes copains français que j'avais rencontrés sur le chemin, on a eu une soirée mémorable là-bas. Là. À chaque fois que je passe à Compostelle, je pense à mes amis Jordi Gomez et Christian qui sont en train de m'écouter en ce moment même, c'est sûr. Mais tu vas développer des amitiés dans ces places-là. Moi, je te conseille fortement de louer un hostel parce que tu vas pouvoir rentrer à l'heure que tu veux. Et comme je te disais, souvent, les albergués, il faut que tu sois dans l'albergué là, maximum vers 10 heures le soir. Tandis que là-bas, là, à 10h le soir, ça commence. Là. Ça commence vraiment à avoir du fun.
Non, c'est ça.
Et tu vas voir, tu vas commencer à manger des tapas là-bas et boire du vin ou avoir du plaisir, parler avec les autres pèlerins. Alors, c'est pour ça que dans ce coin-là, dans les grandes villes, je te conseille les hostels.
Et comme moi, je parle pas beaucoup, hein, c'est sûr que c'est mieux pour moi si je peux rentrer plus tard.
Ben, tu sais, là-bas aussi, tantôt, tu parlais des langues. Mais moi, je parle pas du tout espagnol. C'est sûr que je suis capable de me commander un café en Espagne ou de dire une bouteille d'eau, tout ça, parce que c'est souvent les mots qui reviennent le plus souvent. Mais les gens là-bas, ils parlent souvent anglais. Il y en a bien qui comprennent le français parce que c'est souvent les mêmes phrases qui reviennent. Alors, sois pas du tout inquiète pour ce qui est du langage. Là, ça va super bien aller de ce côté-là. Mais il y a quelque chose que je veux absolument que tu prennes conscience. Je veux juste t'avertir parce que j'en parle souvent du retour. Le retour, c'est très difficile. C'est certain que on peut laisser notre aventure là-bas au hasard, comme dit souvent Marcel Leboeuf, tu as plein d'hasards qui arrivent là-bas. Mais il y a un hasard que je veux pas que tu sous-estimes, c'est ton retour. Parce que moi, j'en parle souvent, j'ai eu un très dur retour. Prévoyez avoir quelques journées de congé à ton retour. Parce que tu vas voir que quand tu vas revenir, on dirait qu'on tombe à plat, là. Vraiment, vraiment à plat. On n'a plus d'énergie. On n'a plus la même vibe, un peu, comme je pourrais dire, que sur le chemin. On n'a plus la même. On jase plus autant avec les gens. On revient ici, on se retrouve un peu dans notre quotidien. Et ça frappe, là. C'est comme un mur. Mmh. Juste prévoir une petite partie, là, pour le retour.
Une petite partie isolée, les fenêtres fermées, on reste tout seul,
dans le sens que j'avais parlé justement à Pascal Auger dans une entrevue, puis il m'avait dit qu'il y a des gens qui prévoient pas, c'est que les gens, mettons, finissent de marcher le dimanche et reviennent à la maison le lundi, ils commencent à travailler le mardi. Et quand tu retournes travailler le mardi, toi, t'as plein de souvenirs à raconter à tout le monde. Et là, ce qui va arriver, c'est que toi, tu vas vouloir parler à tout le monde, mais eux, ils sont plus dans le même mood que toi, ils sont pas dans le même beat. Là. Toi, tu vas parler un peu, mais en réalité, au départ, ils vont t'écouter un peu par la politesse, mais des fois, ça va comme les... tu sais, ils ont pas vécu la même chose, c'est certain. Tu sais, c'est pas un voyage sur le bord de la mer.
Non, je comprends.
Tu vas raconter ton tout inclus, c'est un voyage que tu vas vivre des expériences chaque jour. Fait que tu vas marcher pendant 35 jours, tu vas avoir 35 jours d'expérience à raconter. C'est pour ça qu'à ton retour, moi, ce que je conseille, c'est vraiment là, d'avoir une semaine sans retourner dans son... tu sais, travailler tout de suite. Là.
Oui, puis tu sais, en même temps, c'est ça, c'est que c'est pas le même beat quand tu retournes au travail. Tu sais, quand tout ce que tu as fait pendant un mois, c'est marcher à ton rythme. Là, il faut que tu réembarques dans le rythme un peu imposé.
Et toi, la chance que tu as aussi, c'est que, comme tu dis, tu t'en vas voir tes beaux-parents en France. Alors, c'est sûr que tu vas avoir le temps de décanter et de jaser avec eux aussi.
Oui, c'est ça. Mais peut-être que revenir tout de suite, ça m'aurait permis de dormir dans l'avion. Je dors jamais en avion. Moi, je suis comme pas capable. Fait que là, quand tu as marché tes 35 jours, là, quand tu prends l'avion, tu dois dormir dans l'avion. Je sais pas.
C'est sûr que quand tu reviens, quand tu pars de France, tu vas partir de très tôt. De jour, et là, tu vas revenir à la même heure que tu es parti. Ça veut dire que, comme moi, si je me rappelle bien, mon avion était à 10h le matin, tu vas revenir à 10h le matin chez toi. Et là, cette journée-là, tu vas avoir comme... tu vas être fatigué, tu vas sûrement dormir en arrivant, là. L'autre chose aussi, j'ai oublié de te dire, c'est quand tu t'en vas vers la France, il faut prévoir arriver une journée à l'avance à Saint-Jean-Pied-de-Port parce que tu vas avoir le décalage horaire aussi dans le corps.
Oui.
Parce que là, tu vas être 6h en arrière, fait que toi, tu vas partir à 10h le soir et quand tu vas arriver en France, il va être à 8h le matin.
Oui. Puis tu sais, ils font les vols de nuit justement pour que les gens puissent dormir puis comme éviter d'eux, mais moi, je suis incapable. Je fais tout le vol éveillé.
Un autre petit conseil que je peux te donner aussi, c'est qu'à rendu à Santiago, si jamais tu vas jusqu'à Fisterra, il y a des petits autobus qui te ramènent à Santiago. Et à Santiago, il y a un aéroport pour te ramener à exemple, si tu atterris à Charles de Gaulle, il y a un aéroport de Compostelle qui t'emmène de Santiago, qui t'emmène directement là-bas. Et ça, je te le conseille parce que moi, la première fois, j'ai pris l'autobus. Et ça avait pris 17h, 18h, juste me rendre où ce que j'ai commencé à marcher. en tant que tel, là, c'est vraiment, vraiment 18 heures de route. Et quand tu prends l'avion, c'est 2 heures. Et c'est là que tu te rends compte tout le chemin que tu as fait en 35 jours à pied. Quand que l'avion, ça prend 2 heures, tu te rends où tu as commencé. C'est quand même assez impressionnant, là.
Oui. Vraiment. Mais j'ai très hâte.
Est-ce que tu as pensé à quelque chose en particulier? T'as-tu... Parce que l'équipement là-bas, tu sais qu'il fait chaud et c'est sec. Hein? C'est un petit peu différent d'ici.
Oui, c'est ça. Fait que nous, ce qu'on a, on s'est acheté des sacs. C'est un 40 litres plus 10 parce qu'il y a comme un petit sac de jour attaché dessus. Moi, je voulais avoir moins l'eau, mais là, tout ce que je trouvais, c'est que les bretelles n'étaient pas assez larges pour mes épaules. Puis comme j'ai des douleurs fréquentes aux épaules, il fallait vraiment que le poids soit réparti. Donc, j'ai trouvé là vraiment, pour vrai, c'est magique. Là, quand je mets mon sac, je sens absolument rien. Puis, on va vraiment y aller avec des vêtements un peu techniques, si on veut, là, à séchage rapide. Puis, c'est que si on est mouillé ou de quoi, mais que ça peut sécher rapidement. Puis, pour les bas, je sais que aller avec la laine de mérino de préférence parce que pour justement éviter l'humidité, parce que c'est ça qui fait les ampoules et tout. Moi, j'ai des bottes de randonnée vraiment que j'ai achetées spécialement pour ça. On commençait quand même à être bien équipés, là, je dirais. J'avais acheté et le sac de couchage et le drap en satin, si on veut. Mais comme il risque de faire chaud, probablement qu'on va partir juste avec juste le drap de satin.
Oui, exactement. Parce que même si tu as un 40 litres, c'est sûr qu'il conseille plus un 36 litres comme sac. Faut que tu aies le moins de poids possible sur ton dos. Seulement, ils conseillent 10 % de ton poids corporel. Ça. Les gens, en général, ils ont 10 kilos là, sur le dos, le gros maximum. Mais toi, même si ton sac est un petit peu plus grand, tu as juste à le remplir un petit peu moins. Là. Ce que tu as dit qui est la clé dans tes vêtements, c'est les chaussettes. Les chaussettes, ça, il faut faire aucun compromis. Tu en achètes 3 paires. Il faut absolument acheter ça. C'est le secret de la réussite là-bas. À mon point de vue, à moi, j'ai jamais eu aucune ampoule. Il ne faut vraiment pas mettre du coton parce que, comme je disais, c'est très, très, très chaud. Tout dépendant aussi de la période qu'on part. Moi, je partais souvent en juin, en mai et juin. Et là, on marche jusqu'en juillet et début août souvent. Alors, il fait quand même très, très, très chaud. Et le coton, ça cause de l'humidité.
Oui.
Et les laines Merino Icebreaker, pour ne pas les nommer, c'est des chaussettes de grande qualité. Et l'autre chose aussi, il ne faut pas oublier, c'est souvent, on fait notre propre lavage là-bas. Et les chandails que tu parlais tantôt, qui sèchent très rapidement, les Icebreakers, ce qui est le fun avec ces chandails-là, c'est que ça ne frippe pas vraiment. Alors, tu le laves, là-bas, il y a comme des places pour laver tes vêtements dans les albergués. Et souvent, il y a des cordes à linge. On prend notre linge et le lendemain, c'est comme si ça avait été dans une sécheuse ou une laveuse. Là, il n'y a aucun problème là-dessus. Tu mets les bons côtés de ton bord, finalement, pour réussir ton chemin. Parce que une des choses qui est vraiment désolant, et ça aussi, ça m'est arrivé très souvent, c'est de voir des gens devoir abandonner leur chemin parce qu'il y avait tellement d'ampoules. Moi, j'avais une collègue que j'avais marché 3-4 jours avec, Irene. Irene, une fille qui venait de Amsterdam, une femme extraordinaire. Puis elle avait marché avec moi 3-4 étapes et elle était découragée parce qu'elle avait comme, je te dirais, d'un pied au moins 10-15 ampoules, l'autre pied la même chose. C'était vraiment, vraiment décourageant. Oh, mais
mon Dieu!
Finalement, elle avait réussi à finir son chemin. J'avais passé une paire de chaussettes. Elle avait pris 2 jours de traitement là-bas. C'est ce qui est très plaisant, c'est que dans les albergués, dans les grandes villes, entre autres, c'est souvent tu as des médecins. Elle avait réussi à guérir ses pieds. Je l'avais revue à San Diego. On avait pleuré ensemble parce qu'elle était vraiment, vraiment supposée d'abandonner son chemin. Quand je l'ai vue, là, moi, j'avais été jusqu'à Finistère et quand j'étais de retour à San Diego. Je l'ai rencontré par hasard. J'étais vraiment, vraiment ému. Alors, c'est pour ça que quand on part pour une longue aventure comme ça, toi, tu as tellement un beau projet en plus, ça serait vraiment désolant qu'au bout d'une semaine, on doit revenir parce qu'on a tellement d'ampoules. Marcher avec des ampoules, c'est vraiment pas évident. Et là-bas, ce qu'on veut avoir, surtout, c'est d'avoir du plaisir.
Mais non, c'est ça, on va bien s'équiper. Puis j'avais, comme je disais avec Christophe, là, probablement qu'on va aller, mais qu'on puisse, parce que là, actuellement, que la situation, on peut pas vraiment sortir. On va sûrement aller faire un tour là, à la tienda.
Au centre de la tienda sur Wellington.
C'est ça, exactement. Donc, on va aller voir pour ce qui nous manque.
Ce qui est le fun avec le centre de la tienda, là, c'est pas pour les plugger, mais c'est sûr que c'est des pèlerins qui me tiennent à cœur, Anne-Saint-Hilaire, tout ça. Vous pouvez aller en ligne et c'est sûr qu'elle va vous l'envoyer, là, c'est certain.
Oui, puis aussi, c'est qu'ils peuvent monter nos sacs aussi, je crois, si on emmène nos choses, là, nous montrer comment bien préparer tout ça, donc c'est très intéressant.
En plus, sur le chemin, là, c'est sûr que tu seras pas dans cette partie-là, parce que toi, tu vas faire le Camino Francés, mais si jamais tu t'en vas, justement, là, les Landes...
Faire le Puy-en-Velay.
Le Puy-en-Velay, ben, on a Serge et Mandy qui ont des boutiques extraordinaires. En cet endroit-là.
Oui, j'ai entendu dans tes podcasts.
Oui, exactement. Alors, c'est sûr que tu pourrais te procurer des choses à cet endroit-là aussi. Et en plus, toi, tu vas avoir le bonheur d'aller essayer le nouveau restaurant d'Olivier, notre invité, qui s'appelle aussi La Tienda, d'ailleurs, le restaurant, qui va être à ta quatrième étape. Et là, tu vas pouvoir aller le voir et lui dire bonjour. Et c'est un super pèlerin.
C'est déjà noté dans mon carnet de pèlerine. Ouais. Je me suis acheté un beau carnet en cuir là, parce que j'aime beaucoup écrire. Et, j'ai tout mis ça là, dedans.
Ça, c'est une autre clé aussi que j'ai jamais parlé, mais que moi-même, je n'ai pas fait à mon premier chemin. Je trouve que c'est important d'écrire le soir après ton chemin, là, d'écrire les choses que tu as aimées là-bas et comment tu t'es senti aussi. Ça va tellement être des beaux souvenirs plus tard quand tu vas t'en lire. Tu vas revenir dans le chemin. Là. Wow!
Oui, c'est ça. Puis ma tante, elle me disait, comme je pars avec mon téléphone parce qu'on veut faire les photos, les vidéos, tout ça, mais tu peux utiliser ton téléphone pour t'enregistrer aussi des fois. Tu sais, si tu penses à des choses en marchant, t'es pas obligé de sortir ton calepin, tu le dictes, puis tu l'écris le soir. Donc, c'est un bon truc aussi qu'elle m'a donné.
Mais Audrey, je veux juste, en terminant, je veux inciter les gens à aller t'encourager, à te donner une petite commandite. Oui. Comment ils peuvent te rejoindre?
Ils peuvent me rejoindre de plusieurs façons. Premièrement, il y a notre page Facebook qui s'appelle Kilomètre 800 à deux pas de la réussite. Que c'est assez facile de nous retrouver sur Facebook. Il y a toutes les informations à cet endroit-là. Sinon, il y a aussi notre site Internet. C'est le www.kilomètre800.christopheferru.com. C'est mon conjoint qui a fait le site. Et c'est ça, sur la page Facebook, il y a vraiment toutes nos coordonnées pour nous rejoindre, là, adresse courriel, numéro de téléphone. S'ils ont des questions, il n'y a pas de problème. Puis c'est ça, le lien du GoFundMe est sur la page Facebook et sur le site web. Et s'ils veulent vraiment commanditer, par exemple, une entreprise qui voudrait faire une commandite de portions, juste m'envoyer un courriel et de cette façon-là, moi, je vais pouvoir leur envoyer le plan de visibilité, là, pourront regarder là, pour leur commande.
Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que vous allez sortir un livre de recettes.
Oui,
qui va un petit peu des recettes de l'Espagne aussi, qui va avoir là-dedans.
Oui, c'est ça, la ligne directrice du livre de recettes, ça s'appelle Quand le Québec et la France rencontrent l'Espagne.
Ouais.
C'est cuisine et art de vivre un peu. Fait qu'il y a des petites anecdotes dans le livre aussi, des coups de cœur à moi et Christophe. C'est monté comme ça. Puis c'est 35 recettes, vu qu'on va marcher 35 jours.
Ouais.
Et c'est des recettes québécoises, soit traditionnelles ou que j'ai un peu réinventées à ma façon. Des recettes françaises parce que mon amoureux est français. Et des recettes espagnoles, puisque on va marcher sur les terres de l'Espagne, que c'est dans cette vision-là là, qu'on a fait le livre.
Ah, wow! Parce que je trouve que c'est tellement une belle façon pour les gens de l'Europe aussi qui veulent vous encourager de vous acheter un livre éventuellement là, quand il va sortir en ligne. Pour, ça va être super intéressant. Puis l'autre chose aussi, je veux te dire, c'est que quand que tu vas être rendu là-bas, les pèlerins, quand tu vas parler de ta fondation puis de pourquoi tu marches Compostelle, c'est sûr que les gens vont t'encourager. Les pèlerins, ils ont le cœur sur la main, puis c'est certain que tu vas avoir des beaux résultats là-bas là, avec ça. Là.
Ah oui, on a déjà hâte. Puis on s'était fixé un objectif de 5 000 $ et on est déjà dépassé les 3 000.
Wow.
Ça avance bien. Donc si on peut vraiment donner plus, moi je vais vraiment juste être plus heureuse de pouvoir partager ça
avec les enfants,
avec les jeunes. Là.
Audrey, je te souhaite vraiment la marche de ta vie. Je te souhaite le plus beau voyage. On va te suivre, comme je t'ai dit. C'est sûr qu'on va te suivre. C'est certain, on va parler de toi. Il y a un nouveau projet qui va entrer au mois d'avril sur notre podcast. On va avoir des anciens invités qui vont nous parler un petit peu de leur entreprise sur le chemin, à essayer de les aider à survivre. Alors, c'est certain que toi, on va te leur demander, on va faire en sorte que les gens ne t'oublient pas et qu'ils participent à la cause.
Puis, quand que je serai rendue à destination, si tu as envie, on pourra aussi prendre un moment, puis on pourra parler en direct également. Il n'y aura pas de problème, là, on va rester connectés.
Ben, t'es super gentil, puis je te souhaite vraiment un beau chemin à toi, à ton amoureux. Ben, ça va être une deuxième lune de miel là-bas.
Oui, c'est ça. Ben, un gros merci, Daniel, pour ton temps aussi. C'est vraiment apprécié.
Ben, merci beaucoup. Et buon camino.
Buon camino.
J'aimerais trouver les mots justes pour vous partager à quel point c'est important pour moi la persévérance. Parce que vous savez, dans la vie, c'est important de fixer des buts, c'est important de les atteindre, mais la seule façon de les atteindre, c'est de jamais lâcher.
Son métier, chef cuisinier. Sa passion, pèlerin à temps plein. Daniel Lafond vous invite dans son univers et celui de ses invités, chers mordus de Compostelle. Prenez place et buen camino!